Bon, ainsi que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs le savent, je suis toujours aussi motivé par la question de la psychiatrie et toujours dans le courant antipsychiatrique et alternatif. C'est un peu de cette façon-là que j'ai, il y a fort longtemps, participé à la création du groupe Information Asile et que j'ai toujours tenu à comprendre leur analyse, à y participer et éventuellement à essayer de voir en quoi le courant alternatif pouvait être en lien avec les combats du GIA. Alors évidemment, ça a fait que j'ai rencontré beaucoup de gens avec lesquels j'ai mené des luttes. Je pense en particulier aux fondateurs, les docteurs Gérard Hoff, Bernard de Fréminville et Dimitri Crouchez, qui sont repartis, qui ont été remplacés par d'autres militants comme Claude Collard, et puis ensuite, surtout Philippe Bernardet, et puis d'autres personnes, évidemment, comme André Bitton, qui donc a été 9 ans président du groupe Information Asile, mais qui aujourd'hui, et depuis déjà un petit moment, s'occupe du CRPA. Alors, André, c'est juste pour savoir où nous en sommes. Qu'est-ce que le CRPA? Que s'est-il passé? Où en est-on des luttes antipsychiatriques de ce courant de pensée?
Alors, tout d'abord, il faut être, faut faire un point. Le CRPA, c'est le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Donc, c'est une association, c'est un cercle, et c'est en même temps une scission du groupe Information Asile, qui a été constitué en novembre 2010, il y a 11 mois, et qui a été déclaré en décembre 2010 par une assemblée générale constitutive. Alors nous avons quitté, ou nous avons été exclus, hein, soit l'un soit l'autre, ou nous avons quitté, démissionné le GIA parce qu'il y avait une dissension qui s'était cristallisée depuis plusieurs années dans la direction du GIA après la mort de Philippe Bernardet en 2007, alors que j'assumais la présidence, que j'ai cédé pendant un an entre 2008 et 2009 pour m'occuper de moi. J'ai repris ensuite. Il y avait donc des dissensions qui se sont cristallisées, qui étaient des dissensions par moments politiques, d'autres fois personnelles, d'autres fois idéologiques quant au terrain psychiatrique et quant à l'approche sur le terrain psychiatrique, quant au militantisme sur le terrain. Et ensuite, une question tout à fait centrale, la question de la charge de travail à la direction du GIA. À savoir que pour ma part, j'ai crapahuté à la direction du GIA depuis fin 2000, en portant à bout de bras cette association pendant des années et des années, et je suis arrivé à un certain épuisement, à une certaine saturation, et les clashs entre nous devenaient multiples. Et donc, on a fini par s'engueuler les uns les autres, on s'est mis dessus, et on a donc pris la décision de se séparer. Hein. Le CRPA, c'est une séparation, c'est une scission. Alors, on voit, cette scission apparaît au moment précisément, je vous renvoie une émission de l'Entonnoir de novembre 2010, du 26 novembre 2010, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, au moment où une action a cours au Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, dans le cadre d'une ancienne adhérente du GIA, et alors que la question prioritaire de constitutionnalité avait été rédigée par Olivier Colman, le président de l'AFCAP, Association française contre l'abus psychiatrique, qui était une scission du GIA de 2000, suite à la cristallisation de conflits en notre sein. L'AFCAP avait été formée, et Olivier Colman, qui était juriste amateur, a fait donc le texte de cette question prioritaire de constitutionnalité sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers. L'avocat de la requérante a adopté ces écritures, les a transmises au Conseil d'État, qui a accepté la question prioritaire de constitutionnalité, qui a été transférée au Conseil constitutionnel. Le 26, le groupe Information Asile, sous ma direction, intervenait volontairement dans cette instance, se constituait avec Maître Corinne Vaillant, bétonnait des écritures tout à fait intéressantes de Maître Corinne Vaillant, et était présente à cette QPC en tant que partie intervenante. Le 26 novembre 2010, la décision, la sanction même du Conseil constitutionnel tombait, les maintiens en hospitalisation à la demande d'un tiers au-delà de 15 jours non décidés par des juges judiciaires garants des libertés individuelles sont non constitutionnels. L'internement psychiatrique français est déclaré non constitutionnel. ce qui est une explosion, c'est une véritable victoire pour le combat juridique depuis 30 ans mené par le groupe Information Asile, c'est une consécration. Philippe Bernardet n'avait pas arrêté de dire, depuis la promulgation de la loi du 27 juin 90, qui avait été une réformette, un toilettage moderniste de la loi du 30 juin 1838, ces deux lois sont non constitutionnelles. Ces deux lois prévoient un internement sous modalité purement administrative. Or, ce sont à des juges de prendre des décisions privatives de liberté et d'être les garants des libertés individuelles et d'être ceux à qui le patient interné peut s'adresser comme voie de recours, avec les voies de recours ouvertes aux personnes qu'on prive de liberté. Donc, la scission CRPA intervient à peu près en même temps. Une engueulade entre nous a cours le 9 novembre 2010. Le 11, le 9, je suis pour ma part exclu du GIA que je dirigeais, ce qui était quand même un peu fort. Et dans la foulée, je démissionne. Le 11, je fais connaître ma démission aux membres de l'association. Et à dater de la fin novembre, les gens rallient plus ou moins ma position. Alors, on part en minorité, mais ce qui s'est passé, c'est que le GIA, depuis le début de l'année 2011, s'est sévèrement étiolé et a perdu de sa dynamique, et que c'est le CRPA qui est en quelque sorte le canal historique de ce qu'a été le groupe Information Asile et qui représente en même temps une nouvelle donne. Une nouvelle donne d'une collaboration avec les professionnels. Puisque depuis la décision du Conseil constitutionnel qui a entraîné une réforme législative, ou du moins une partie d'une réforme législative, la réforme du 5 juillet 2011, je vais revenir là-dessus, la donne a considérablement changé et le travail avec des professionnels, et notamment des professionnels du droit, devient impératif.
Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler une chose capitale de l'histoire du GIA, c'était pas les tout débuts qui étaient strictement militants et très rentre-dedans sur le terrain, c'est quand même un peu autour de Philippe Bernardet que ça s'est joué. Philippe Bernardet qui est l'auteur, entre autres, d'un livre incontournable, « Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique ». Le combat, au fond, a été quelque part résumé par une formule, dessaisir le pouvoir médical de l'internement psychiatrique et placer cette question sur le terrain juridique. Et là, ce que nous avons constaté, tous ceux qui ont accompagné ce combat, c'est des milliers de dossiers que vous avez traités, des milliers de dossiers pour lesquels, dans la plupart des cas, le pouvoir médical a été complètement battu en brèche, et où les décisions judiciaires, finalement, ont donné raison et au GIA et aux personnes psychiatrisées. Alors, qu'est-ce que toi tu pourrais ajouter comme commentaire par rapport à ce combat central et son évolution actuelle, évidemment, à travers la fin du GIA et l'apparition du CRPA ?
Je pense que ce combat juridique, alors en fait, il faut en retracer les étapes. Dans le cadre du groupe Information Asile ancien des années 70, tel que tu l'as connu, moi j'ai connu GIA à partir de 90, hein, de 1990, sur une problématique personnelle. Je suis un ancien interné. Le GIA des années 70 était centré à la base sur une dénonciation radicale de l'institution psychiatrique en tant qu'institution répressive et policière, mais cette dénonciation était essentiellement idéologique. Et au fur et à mesure de la décennie, de l'écoulement de la décennie 70 et de la fin de la décade militante 68-78, avec la défection des rangs purement militants, les victimes apparaissent et ces victimes sont également demandeurs de droits. Demandeur de justice. Et Philippe Bernardet, qui finalement, après son terrain en Côte d'Ivoire, puisqu'il était chercheur au CNRS spécialisé sur l'ethnologie rurale en Afrique de l'Ouest, revient à peu près vers 80-82 en France après un an de terrain en Côte d'Ivoire, et s'aperçoit que le terrain est reprenable sous condition de faire essentiellement de la procédure, et à travers les gains obtenus et les cas d'internement abusifs, et encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle internement abusif, opérer des médiatisations et une repolitisation d'un débat qui est en train de se dépolitiser. Finalement, c'est ça. Donc, les étapes de ce combat, c'est finalement la création d'une commission juridique au GIA, alors que la jurisprudence dans l'internement psychiatrique, il n'y en a pratiquement pas. Il faut savoir que l'internement psychiatrique en France, quand c'est un placement d'office, c'est le préfet, commissaire, maire en dehors de Paris, et ensuite le préfet. Préfet de police à Paris et préfet. Quant aux HDT, c'est les médecins, le corps médical.
HDT, donc hospitalisation à la demande d'un tiers.
Hospitalisation à la demande d'un tiers, l'ancien placement volontaire, c'est le corps médical, avec une décision formelle, une décision de principe du directeur de l'établissement. Il s'agit donc, dans tous les cas, de décisions administratives. Décision préfectorale de, pour une part, policière, préfectorale, et décision médico-hospitalière pour, par ailleurs. Il s'agit donc de décisions purement administratives et qui sont pourtant privatives de liberté. La justice n'intervient là-dedans nulle part, sauf a posteriori. Donc le combat tout d'abord du GIA était d'obtenir un maximum d'annulations pour vice de forme, pour illégalité, devant les tribunaux administratifs, de faire sortir en parallèle des personnes de, par décision de sortie judiciaire des internements, et d'obtenir réparation des illégalités constatées dans le contentieux indemnitaire. Alors c'est les arcanes, c'est tout au long de la complexité, de l'énorme complexité de ces arcanes procédurales que le combat du GIA se développe. À la base, il n'y a pratiquement pas de jurisprudence, il n'y a pratiquement aucun avocat de formé en France. La dualité de compétences entre la juridiction administrative d'une part et la juridiction judiciaire, avec cet éclatement entre les compétences, complexifie énormément le terrain et dégoûte la plupart des avocats d'agir. Ces avocats se disant, faut que je me tape des dossiers de malades mentaux, d'aliénés, même s'ils s'en refusent l'étiquette, même s'ils se réclament de l'internement abusif, n'en reste pas moins qu'ils ont été internés en tant qu'aliénés. Faut que je me tape ces problématiques, faut que je me tape des écriture d'une complexité incroyable entre deux ou trois juridictions et que je me farcisse ces clients qui n'ont pas de quoi me payer pendant 15 ans. Donc en quelque sorte, c'était la quadrature du cercle. Et donc les écritures bénévoles du GIA, faites par des bénévoles, Philippe Bernardet était un bénévole de la commission juridique, était donc essentiel. Alors au fur et à mesure des années 80 et 90, de la jurisprudence se dégage, y compris de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que, auprès de laquelle Philippe Bernardet se spécialise à partir de 89. Philippe Bernardet obtient dans des dossiers issus du GIA à peu près une cinquantaine de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces condamnations se traduisent par des modifications réglementaires au niveau du fonctionnement de la psychiatrie en France ou par un renforcement de la jurisprudence qui fait que des condamnations de droit interne peuvent apparaître. La jurisprudence du droit administratif se développe considérablement au fur et à mesure des années 80-90 et on s'aperçoit que en pratique, énormément d'internements, que les personnes soient malades ou pas, ou internées abusivement ou pas, qu'énormément d'internements sont frappés d'illégalité. Ils sont tout simplement mal rédigés. Et c'est ce que développe et c'est ce que creuse le groupe Information Asile et les quelques conseils qui travaillent avec nous.
Heureusement est arrivé Maître Corinne Vaillant.
Alors, Maître Corinne Vaillant intervient à partir de 1984.
Et voilà.
Dans cette affaire. Alors, Maître Corinne Vaillant intervient tout d'abord comme une quasi-bénévole qui travaille avec Philippe Bernardet et les gens du GIA. Et elle travaille essentiellement à l'aide juridictionnelle pendant 15 ans. Mais il est convenu que, et c'était l'époque du développement de ce contentieux qui était expérimental. Ce contentieux était expérimental à l'époque, il l'a été jusqu'au début des années 2000. Il était convenu que Philippe Bernardet faisait la majeure partie des écritures en tant que bénévole, en tant qu'appointé par le CNRS comme chercheur dans ces dossiers. Corinne Vaillant faisait un mémoire de conclusion, puis aller plaider, puis bon, donc voilà. Et c'était donc essentiellement au titre de l'aide juridictionnelle. Alors les deux compétences de Philippe Bernardet et de Corinne Vaillant se dualisent, se dialectisent, et finalement dans ce tandem, on arrive à des développements jurisprudentiels extrêmement intéressants. Et en effet, Corinne Vaillant devient rapidement une avocate spécialiste sur ce terrain, mais il n'en reste pas moins que le maître de ce terrain, cette espèce de présence un peu hautaine, assez également un peu un prince non reconnu comme tel, était bel et bien Philippe Bernardet, qui était l'expert, cet expert très hautain, était replié au fin fond de la Sarthe, qu'on connaissait de nom ou de réputation, et que les directions d'hôpitaux craignaient comme la peste.
Ben forcément, parce que chaque fois qu'il apparaissait, il savait qu'ils allaient se prendre des camouflets.
Exactement, oui. Des condamnations ou des sorties.
Est-ce que tu as une idée du nombre de dossiers qui a été traité par le GIA et qui s'est soldé par une victoire? Parce que j'ai connaissance de chiffres astronomiques.
J'estime, non, j'ai pas, il n'y a pas eu de statistique dressée. Je pense, d'après des discussions très nombreuses, très profuses que j'avais avec Philippe Bernardet, puisqu'on était très amis, et que mon propre dossier faisait partie de ses dossiers, puis que moi j'ai beaucoup milité sur ma propre affaire. Je me suis quand même forcé de faire triompher ma propre cause, à savoir mes propres intérêts quand même, et de gagner mon affaire. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ma propre affaire dans un premier temps, avant de travailler sur les dossiers d'autrui. Philippe disait de son vivant, il est mort en 2007, mais il disait que le GIA avait traité dans les 400-500 dossiers.
Oui, c'est complètement fou, hein, oui. Parce que c'est fait par peu de personnes.
Oui. Quant à moi, je sais que avec la systématisation sous ma présidence, où à partir de 2001, on travaille avec des avocats, et où donc c'est la relève apparaît avec maître Raphaël Maillet, hein, du barreau de Versailles, avec d'autres avocats également, avec la vulgarisation de ce contentieux. Maintenant, c'est une véritable explosion. C'est des dizaines d'avocats à travers la France, et dans un an ou deux, ce seront des centaines. Je sais que moi, en 10 ans, une dizaine d'années, j'ai dû constituer et faire naître et basculer après dans des cabinets d'avocats à peu près 150 à 200 dossiers, dont 70 à peu près, dont le tiers se sont terminés par des condamnations indemnitaires.
Vous remarquez une chose, Pascal, Nicole et Camille, que quelque part, ce combat du GIA préfigure celui de la lutte anticarcérale. Ça démarre avec Étienne Noël. Maintenant, il y a cet avocat de Nantes, d'autres de Versailles. Et puis, d'un seul coup, on s'aperçoit que ça apparaît partout. Il y a plein d'avocats qui se spécialisent. Moi, je trouve toujours un étrange parallèle dans les luttes contre l'enfermement.
C'est pas exactement les mêmes modes, c'est pas exactement les mêmes thèmes, c'est pas exactement la même logique, mais ça se rejoint. Il est vrai que ça se rejoint. D'autant plus que la situation dans les établissements psychiatriques à l'heure actuelle se carcéralise. Elle est en train, on est dans un processus de carcéralisation au niveau des institutions psychiatriques. Mais bon. Enfin, ça, c'est un autre chapitre, on y reviendra
un peu. On peut y revenir tout à l'heure parce que
c'est intéressant.
Oui. C'est très important, oui.
On y reviendra, il faut qu'on y revienne. Mais il faut voir que dans les établissements psychiatriques, vous avez beaucoup de gens dont la présence ne relève pas d'un délit ou d'un crime, mais d'une simple considération par l'environnement que la personne délire. Il s'agit donc d'innocents, donc de gens qui n'ont rien fait de mal, sinon de délirer pour leur environnement. D'une part, et d'autre part, il y a dans les établissements psychiatriques un grand nombre, enfin, il y avait, parce que maintenant le service libre est en voie de réduction pour la contrainte, il y avait des tas de gens qui étaient là en résidence volontaire, à titre libre. Et la fonction asilaire, pendant très longtemps, à partir de l'ouverture des hôpitaux psychiatriques dans les années 60, les hôpitaux psychiatriques, pendant plusieurs décennies, ont joué une fonction de service social, une fonction d'asile, une fonction... il y a également cette fonction. Donc la situation est beaucoup plus nuancée, puis il y a les médicaments. Il y a la question des médicaments là-dedans, qui est extrêmement compliquée. Un détenu peut être considéré comme un simple fautif qu'on enferme point, mais on rentre pas dans sa chair. Un malade mental, même s'il n'est pas fautif du tout, même s'il n'a fait de mal à personne, ou s'il n'a pas commis d'autres fautes que de délirer, on rentrera dans sa chair par les médicaments. Et c'est pas la même logique.
C'est pas la même logique, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, en maison d'arrêt, un détenu sur deux et sous médicaments psychotropes, et sur l'ensemble de la population carcérale, 1 sur 4. Donc il y a des convergences, mais en ce qui concerne le domaine de la psychiatrie, on va y revenir après avoir écouté un petit peu de musique de nouveau. On est toujours au 01 43 71 89 40. Nous sommes avec André Piton et nous allons continuer à parler de la psychiatrie. Nous avons plusieurs pistes sur lesquels nous pouvons rebondir, et je vais te laisser le soin de choisir, parce qu'on a abordé déjà plusieurs thèmes dont on a dit qu'on y reviendrait, sauf à laisser Pascal te poser une question.
Oui, simplement pour que tu dises un petit peu, j'allais dire, j'ai presque cette soif à t'écouter, à savoir finalement quel aura été le motif fondamental de cette scission entre le GIA et puis donc le groupe que vous avez créé.
CRPA.
Parce que tu évoquais des questions politiques, au-delà des engueulades et des désaccords qui peuvent de toute manière s'exprimer, mais...
De toute façon, il y a eu un désaccord central qui était la question de la charge de travail. Donc ça, de toutes les façons, il y avait ça. Hein. Mmh. C'est que moi, j'ai ma main-d'œuvre, elle a eu ses limites, et que en octobre 2010, j'avais engrainé, au terme d'engrenage, action sur action sur action, dont l'intervention volontaire du GIA dans la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Et pendant que j'étais occupé à tout cela, les membres du bureau s'en fichaient. Les membres du bureau de cette association, dirigée par le vice-président de l'époque, Antoine Dubuisson, issu de la FNAPCI, que j'avais défendu dans ses avanies contre la FNAPCI, et qui est quelqu'un... qui a finalement capitalisé le mécontentement des gens du bureau contre moi, autour de lui en tant que relève, qui s'est avéré ne pas être une relève, qui plus est, alors que sa femme est une haute fonctionnaire au ministère du Travail, que lui-même a un carnet d'adresses très rempli des coordonnées et des possibilités de rendez-vous et des accointances avec tous les hauts fonctionnaires du ministère du Travail et de la Santé, auquel il est très lié en tant qu'ami, bien, et alors même que c'est lui qui était censé former une relève, finalement. Et donc, de toutes les façons, il y avait la question de la charge de travail, qui est une question qui, de toutes les façons, a fini par exploser. Hein. Bon, savoir que moi, je suis en invalidité, je suis un invalide, je travaille bénévolement, bon, mes frais sont remboursés, mais bon... Alors, quant à la question politique, c'est ce qui s'est finalement cristallisé, c'est quoi? C'est que le CRPA, c'est une nation qui est dirigée par et pour des personnes qui ont fait de la psychiatrie, et qui entendent se battre contre cette institution avec les moyens du bord, tandis que le GIA, désormais, est devenu récupéré par, dirigé, composé par des gens qui ont fait de la psychiatrie, mais dirigé par des gens qui n'ont pas fait de la psychiatrie. D'accord. Et le principe qu'avait assis Philippe Bernardet au décours de la fin des années 70 dans le GIA, c'est que par principe, le GIA devait être dirigé par des gens ayant fait de la psychiatrie. Philippe Bernardet, qui n'avait pas fait lui-même de la psychiatrie, n'a jamais été président du groupe Information Asile. Il a toujours formé et mis en avant des gens qui ont fait de la psychiatrie en disant « Vous prenez vos responsabilités, moi je reste comme un expert de terrain à l'extérieur. Personnellement, j'ai failli être interné, mais je ne prends pas la présidence, c'est une question de principe. Les psychiatrisés en lutte doivent prendre en main leur propre lutte. » Et personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bernard Langlois, que j'ai bien connu, a été président du GIA de 84 à 89. Il avait fait de la psychiatrie. Jean Sédel, que j'ai bien connu, avec qui j'ai eu l'occasion de m'engueuler, parce que c'était quand même quelqu'un d'assez fasciste dans le genre, et qui faisait de la discrimination, ce que moi j'aimais pas. Personnellement, je suis un ancien malade. Je me reconnais la qualité d'avoir été malade, atteint d'une psychose hallucinatoire. Ça a été très difficile pour moi de me dépêtrer de cela. Enfin, je m'y suis mis et je m'en suis dépêtré. Je suis à l'heure actuelle, depuis longtemps, quelqu'un de sain.
Ben, ça se voit, oui.
Oui, je suis quelqu'un de sain. Mais ça, j'ai été quelqu'un de malade psychiatriquement. Et je faisais partie des gens qui se reconnaissaient malades au GIA. On n'était pas très nombreux hein, à l'époque, il y a 20 ans. Donc, Jean Sédel avait fait de la psychiatrie. Ensuite, il y a eu René Loyen, qui était un intervenant abusif d'ailleurs, qui avait fait pas mal de psychiatrie. Il avait été interné. Mmh. Les présidents successifs au GIA ont été internés. Et là, avec ce coup de main du 9 novembre 2010 apparaissent à la direction des gens qui n'ont pas fait de psychiatrie et qui connaissent nos intérêts et nous défendent en nos lieux et places. Mais moi, j'ai pas besoin de tuteur. Nous avons besoin de tuteur. C'est à nous de faire avec nos imbécilités, nos manques, nos bons, etc. Mais c'est à nous de faire. C'est tout. Donc, le différent politique central, il est aussi là. Il est également dans le fait que moi, avec la direction, j'avais prise au GIA fin 2000 et en 2001, j'avais dit aux gens, on va travailler avec des professionnels. On va collaborer avec des professionnels du droit, qu'on va essayer de former pour que le terrain se diversifie, se ramifie et se vulgarise, et avec des professionnels de la psychiatrie, parce qu'il y en a assez, des dénégations perpétuelles des gens du GIA par rapport à la maladie mentale. La maladie mentale, c'est une réalité, on fait avec. Moi, personnellement, je suis un ancien malade. Personnellement, si on entend me discriminer, je suis pas d'accord, je suis assez bagarreur, je ne me laisserai pas faire. On va commencer à travailler sur le terrain malade et on va se poser la question des droits des patients et pas seulement la question de l'internement abusif, la question des droits des malades. Or, chose curieuse, j'étais chrono avec mon époque, ce que je suis assez souvent depuis les événements de 68 parce que j'étais embringué à 15 ans dans ces événements. En 2002, il y a la loi Kouchner sur les droits des malades. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'officialisation par un cadre législatif effectif qu'il y a bel et bien en France un droit des patients. Mais ce droit des patients, qui est effectif dans d'autres branches de la médecine, est beaucoup moins en psychiatrie. Enfin, plus maintenant, plus depuis la réforme du 5 juillet 2011. Le droit des patients psychiatriques, c'est une réalité maintenant, avec des juges spécifiques, des avocats spécifiques, un corps de tâches spécifique, etc. Maintenant, c'est une réalité. Donc, on voit que, finalement, moi, j'ai cristallisé, d'ailleurs, Bernardet n'était pas d'accord avec moi, Bernardet pensait qu'il fallait recréer une commission juridique faite de bénévoles. Moi, je lui disais, c'est pas possible, c'est terminé, il faut travailler avec des avocats. Philippe Bernardet disait, les têtes de pont sont des gens qui relèvent de l'internement abusif, c'est eux qui se battent. J'écoute Philippe, on s'est engueulé de multiples années, et puis ça, je te rappelle la polémique que vous avez eue dans les années 70 avec Eric Burman. L'internement arbitraire concerne, et il avait fini par le défendre, Bernardet avec moi, dans les années 90, au GIA, l'internement arbitraire concerne dans la masse beaucoup plus des gens malades mentaux que des gens sains. C'est les pratiques arbitraires en psychiatrie et les abus psychiatriques qui ont les conséquences les plus atterrantes sur la population malade et fragile plutôt que sur la population solide et qui n'est pas atteinte ou qui peut se dire non atteinte. En quelque sorte, si les internés abusifs forment une aristocratie des internés, si vous préférez, il n'en reste pas moins que le socle, la base de la population psychiatrisée est une population atteinte, malade, et que, bon, bah, pour ces gens-là, il doit bien y avoir des droits. Des droits qui s'exercent, et donc des droits de recours. Et que donc la pression de la jurisprudence, issue de l'internement abusif, doit bénéficier aux patients.
C'est marrant, tu prends toujours, semble-t-il, le contre-pied de l'idéologie dominante, et finalement, tu arrives à faire des analyses qui, de ce fait, sont plus subtiles, et par conséquent révolutionnaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que ça va à l'encontre du discours dominant, et c'est ce qui, quelque part, est validé par le fait que tu es en lutte depuis déjà des décennies. Parce qu'il faut rappeler que André, ici présent, c'est les lettres à Paris 8, hein, il a fait les lettres à Paris 8, et c'est tout un tas de luttes avec des tas de groupes militants avant le GIA, et donc ça s'est poursuivi à travers la lutte que tu as menée au GIA et depuis au CRPA.
Alors, d'autre part, il y a un événement historique au niveau psychiatrique qui intervient. Le 5 mai 2010, qui est très important, hein, parce que là, franchement, ça se capitalise. Le 5 mai 2010, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, dépose un projet de réforme à l'Assemblée nationale, de réforme de l'internement psychiatrique, qui est une véritable catastrophe. On était au courant depuis plusieurs mois, et le GIA se battait contre ça depuis très longtemps, depuis 1997. Ce projet de loi propose la légalisation de la contrainte aux soins psychiatriques en ambulatoire, donc hors les murs, indépendamment de l'internement. Et là, on voit qu'il y a, à ce moment-là, enfin, se capitalisait depuis 2008, une espèce de bronca des professionnels, alors que dans cette affaire, les représentants officiel des associations de patients psychiatriques se range du côté du gouvernement. La FNAPSI, la Fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie, dirigée par Claude Finkelstein, dans le projet Bachelot, s'était rangée d'ores et déjà dans le camp du gouvernement, renonçant à toute position contestataire et renonçant au bénéfice des subventions grâce accordées par le ministère de la Santé et autres, renonçant à une position de lutte quelconque. Le groupe Information Asile se retrouve, que je dirigeais à l'époque, en mai 2010, se retrouve assez isolé avec deux ou trois associations de patients et anciens patients à être contre ce projet de réforme, qui est un véritable scandale, qui a mobilisé les professionnels de la psychiatrie. Hein, et on se trouve confronté à une nécessaire alliance avec des psychiatres, des professionnels de la psychiatrie qui rentrent en révolte contre ce projet de réforme. Le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, avec qui on a fini par tisser une certaine alliance positionnelle, avec qui on n'est pas forcément d'accord, mais bon, le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, et puis un autre collectif qui se crée dans la lancée de Claude Lauzun, un psychiatre italieniste issu de la révolution psychiatrique italienne de Trieste et des événements des années 70, qui est un courant plus juridique, bien le droit, l'éthique, la psychiatrie en Europe, la connexion entre la psychiatrie et le droit, et qui est plus judiciariste. Nous, on est partisans d'une judiciarisation des internements. Hein. C'est qu'il faut voir, l'internement en France était administratif, on était partisans que ce soit judiciarisé, que les pouvoirs soient remis dans les mains du juge. Le pouvoir de décision d'interner. Et donc, finalement, on se range, le groupe Information Asile que je dirige à l'époque en 2010 se range du côté du collectif « Mais c'est un homme » qui agit en parallèle du collectif contre la nuit, des 39 contre la nuit sécuritaire. Et là également apparaît une autre divergence avec les autres membres du bureau, c'est que pour ma part, je suis déjà au courant et je suis déjà en contact avec des psychiatres du collectif « Mais c'est un homme », Jean-Pierre Martin, ancien médecin-chef à Paris, Claude Louzoun, je le connaissais pas, mais je l'avais lu, je le connaissais à travers Philippe Bernardet, parce que ces psychiatres, finalement, appartiennent au courant auquel lui-même appartenait Philippe Bernardet. C'était un courant de pensée au niveau de la psychiatrie, qui était autour du CEDEP, le Comité européen droit éthique et psychiatrie. Et les autres membres du bureau du GIA, qui n'avait pas mon ancienneté là-dedans, ni mes lectures, n'était pas au courant de cette mouvance et ne prenait pas conscience, du moins pas à leur niveau, pas comme cela, que la connexion pour nous devait se faire avec ces professionnels de la psychiatrie, en rupture avec les associations de patients, en rupture avec la FNAPSI, en rupture avec toute volonté de mener une lutte seule, isolée de ces professionnels. Désormais, la connexion se faisait avec ces professionnels. Et là, il y a une ligne de fracture qui apparaît. Alors, il se trouve que la question prioritaire de constitutionnalité dont j'ai déjà parlé, qui a été sanctionnée par une décision du Conseil constitutionnel le 26 novembre 2010, qui a ouvert la brèche, le Conseil constitutionnel, en gros, a dit au gouvernement, vous avez jusqu'au 1er août pour constitutionnaliser l'internement psychiatrique à la demande d'un tiers, donc faire que, à partir du délai de 15 jours du maintien de quinzaine, l'hospitalisation à la demande d'un tiers soit décidée par un juge judiciaire, garant des libertés individuelles. Vous avez jusqu'au 1er août 2011 pour le faire. Le gouvernement est donc obligé, avant le 1er août 2011, de réformer l'internement psychiatrique, et en tenant compte de son propre projet de réforme, la réforme Bachelot, et en tenant compte du fer posé, de ce deuxième fer en étau, si vous préférez, posé par le Conseil constitutionnel. Il s'est trouvé dans cette affaire que, très curieusement, nous avons eu comme alliés les magistrats du Conseil constitutionnel, présidés par Jean-Louis Debré, ce qui est assez paradoxal, mais c'est comme ça.
Ben oui.
C'est comme ça, c'est ainsi. Donc, dans cette affaire, finalement, c'est toute une série d'enjeux qui se trament, des enjeux personnels, des enjeux d'ambition, des enjeux de position, une petite histoire, une un peu plus grande histoire d'un groupe, de quelques individus, d'une lutte, puis une un peu plus grande histoire, puis une histoire nationale. C'est un peu toutes ces intrications. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, mais j'ai pas encore le recul pour en parler.
Et alors, juste, tu peux préciser, qu'est-ce qui fait, même si ça tombe un petit peu sous le sens et qu'on peut le comprendre en regard de ce que tu dis, mais pourquoi vous préférez la judiciarisation de l'internement plutôt que la procédure administrative?
Alors, pour une raison, pour plusieurs raisons. Alors, le groupe Information Asile, à partir de 1982, avant 1982, les gens du GIA étaient abolitionnistes, autrement dit. Donc, ils disaient abrogationnistes. Abrogation de la loi du 30 juin 1838. Abrogation pure et simple. Fin des asiles, abrogation, lutte contre toute structure d'enfermement psychiatrique, point. Et puis, au fur et à mesure du développement du début de la problématique juridique, la lutte contre les internements abusifs, l'étude des textes, les possibilités des textes, le GIA, autour de Philippe Bernardet, se rend compte, et également avec l'expérience italienne, et les réformes qui commencent à pointer des quatre coins de l'Europe, du Royaume-Uni, l'antipsychiatrie britannique, des Pays-Bas, de l'Europe du Nord, d'Allemagne, des USA également, qu'on ne s'en tirera pas tant qu'on restera au niveau d'une décision d'internement prise par l'administration, parce qu'il n'y a pas de recours contre ça. Ou que si les recours existent, ils sont extraordinairement compliqués. Ils sont sous dualité de compétences entre une juridiction administrative et une juridiction judiciaire. C'est-à-dire que pour une seule protestation, il faut faire 3 à 4 recours. Il faut épuiser 2 juridictions différentes. C'est comme si un détenu devait, protestant contre ses détentions, disant « je suis innocent », devait saisir et le tribunal administratif, et le juge judiciaire, et le juge des prud'hommes. Non, mais parce que c'est quand même un peu ça. Donc, la seule façon de rationaliser le terrain et de faire que les gens aient des voies de recours ouvertes immédiatement et pratiquement, c'est que la décision soit judiciaire. C'est donc une question ayant trait aux voies de recours, aux possibilités de recours, et à l'habeas corpus. Au concept, il faut aller au concept d'habeas corpus. L'habeas corpus, pas d'habeas corpus en France pour les malades mentaux. L'habeas corpus, c'est le corsetage par la procédure judiciaire, par une procédure d'amenage, d'amener au juge, qui permet aux détenus de se défendre.
Et ça n'existait pas en psychiatrie.
Non.
C'est ça qu'il faut rappeler.
Pas d'habeas corpus en France pour les malades mentaux.
Et pourquoi vous refusez l'histoire des soins, là, qu'il y a un suivi par rapport...
Alors, pour quelle raison ? C'est-à-dire que la loi du 30 juin 1838, la loi sur l'enfermement des aliénés, était une loi de police et de sûreté, sur l'enfermement, point. À l'époque, il n'y avait pas de thérapeutique, donc il n'y a rien dans cette loi sur les soins sous contrainte. La loi du 27 juin 90, qui est une modernisation, commence à introduire, et les psychiatres le réclament, les familles le réclament, commence à introduire la contrainte aux soins, la contrainte aux médicaments psychiatriques, à travers les sorties d'essai, la nécessité de soins, la loi du 4 mars 2002, Kouchner, qui réforme en partie l'hospitalisation d'office, introduit également dans l'hospitalisation d'office, qui est une mesure de police, de sûreté, la nécessité de soins. Depuis 1997, on est en place avec, Hélène Stroll, une inspectrice de l'IGAS qui avait émis la première proposition pour le gouvernement. On est en phase de propositions répétées du gouvernement, des corporations et des familles, demandant que ce soit la contrainte au traitement psychiatrique qui soit légalisée, finalement au lieu et place de l'enfermement. Or, nous, notre logique, c'est qu'à la base, on préfère encore être enfermé que traité sous contrainte. On préférerait ne rien du tout, mais enfin...
Ça va de soi.
Enfin, toujours est-il qu'à bien choisir entre être enfermé sans traitement et être traité, je crois que les gens du GIA, il y a 20 ans, optaient dans la masse et en majorité pour l'enfermement sans traitement. Parce qu'il faut voir ce que c'est que les traitements neuroleptiques. Hein. C'est affreux de se dire des neuroleptiques.
Donc, on ne le dit pas assez d'ailleurs. On ne dit pas assez parce qu'on a de plus en plus de personnes au jour d'aujourd'hui qui sont sous contrainte de traitement, qui ne sont plus effectivement enfermées, mais que dont on a le sentiment que toute leur volonté, toute leur énergie, toutes leurs ressources, toutes leurs capacités sont totalement annihilées. C'est-à-dire que fondamentalement, on ne laisse plus aucune chance à toute autre forme d'expression de la personne, de possibilité pour elle, en tous les cas, de pouvoir accéder, et notamment, puisque moi c'est le domaine que je connais, à un certain nombre de démarches d'ordre social pour leur permettre, à un moment donné, de pouvoir trouver une identité sociale, véritablement. C'est comme une sorte d'abolition de leur identité sociale. Enfin, moi, je perçois ça, donc je peux tout à fait entendre quand tu dis ça.
Subir des traitements neuroleptiques puissants et des traitements psychiatriques puissants, c'est très déshumanisant. Et on ne peut plus rien faire. On est réduit à l'état de légumes. On est vraiment réduit à l'état de légumes.
C'est ça.
Donc, la lutte contre la contrainte aux soins est une lutte extrêmement importante. Alors, il se trouve que la réforme gouvernementale, qui a été voulue par l'UNAFAM, essentiellement par l'UNAFAM, l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux, appuyée par les psychiatres les plus réactionnaires du pays, les plus tenants de la psychiatrie biologique, des thérapies brèves, appuyées sur les médicaments, de la simple prescription, et qui finalement évacuent et mettent de côté le travail psychothérapeutique, les évaluations psychanalytiques. C'est les mêmes qui ont été, en 2004, dans le rapport de l'INSERM sur les thérapies comportementales et cognitives, qui ont évalué avec une notation très favorable les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, en disant que le restant était c'était du charlatanisme. Donc finalement c'est le même courant. Donc le gouvernement, la fondation fondamentale, les laboratoires, c'est tous ces gens-là, leurs affidés, le gouvernement a finalement en mai 2010 déposé un projet de loi finalement pour ces gens-là, pour ces lobbies.
Mais justement, moi j'avais une question que je voulais te poser et là elle est en partie réglée dans mon esprit, c'était quel était ton point de vue par rapport à l'UNAFAM et aussi à Advocacy.
Alors, en ce moment, on travaille actuellement avec Advocacy. On a le CRPA travaille avec Advocacy. Ce qui est le GIA, c'est considérablement isolé. Le GIA, c'est considérablement étiolé depuis 6-7 mois, et c'est le CRPA qui est en train d'être la dynamique dans cette lutte associative, au niveau de la lutte juridique. Mais enfin, bon, maintenant, ça s'est considérablement diversifié puisque ce sont les avocats qui rentrent en lice. Hein, maintenant, depuis le mois d'août dernier, c'est les avocats qui rentrent en lice. avec la réforme du 5 juillet. L'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux, d'handicapés psychiques, c'est une centrale de parents, qu'elle mes parents ont appartenu d'ailleurs, qui, depuis le début, réclame les plus amples facilités pour le traitement de leurs malades, et qu'ils en soient débarrassés et déculpabilisés. Donc ils sont assez contre les investigations psychanalytiques aussi, parce que les investigations psychanalytiques, ça vous culpabilise une famille quand même, parce que on vient faire une psychogenèse des maladies mentales, c'est quand même pas le moment, puis la famille allogenèse, hein, faut pas trop regarder dans les placards des familles.
Hein. Il y a des cadavres dans les placards.
Donc on va dire que l'UNAFAM, c'est cette grosse protection, c'est une grosse centrale qui existe depuis 1963, bon, voilà. Et pendant longtemps, le seul contre qu'il y a eu, organisationnel qu'il y a eu à l'UNAFAM, ça a été pendant un certain temps le GIA.
Eh ben oui. Historiquement, le GIA et l'UNAFAM, ça cognait dur. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, on va dire qu'on se retrouve toujours comme adversaire. Enfin, désormais, on s'échange des flèches un peu plus policées qu'avant, on va dire.
Oui.
Ben, récemment, j'ai été affronté à un colloque de magistrats et d'avocats sur Versailles. J'étais affronté à un représentant local des Yvelines de l'UNAFAM. Bon, on s'est échangé nos flèches et puis on a été séparés par des juristes. Et puis c'est tout.
Bien, ben je vais proposer peut-être qu'on fasse une nouvelle plage musicale et après on sera arrivé. Mais alors, c'est invraisemblable, la dernière séquence, les dernières choses que tu voudrais ne pas avoir oublié de dire, parce que nous te posons sans arrêt des questions et nous t'empêchons de parler.
Non.
Oui, puis je parlais des nouveaux dispositifs, carcéraux, on va le dire comme ça.
Oui, mais on va pas le retenir jusqu'à 22h30.
Quelques mots, on va lui demander d'être très synthétique.
Oui, mais on a prévu justement de commencer par l'interview pour qu'il puisse se libérer plus tôt et qu'ensuite nous on fasse notre rubrique info. Finalement, je crois que j'ai compris. Nous allons le retenir le plus possible et il va être obligé de s'évader. On est toujours au 01 43 71 89 40 et pour écrire à Ralémur, 145 Le Hamelot, dans le 11e. On est toujours donc avec André Bitton du CRPA et nous allons peut-être arrivé à notre dernière séquence, j'ai envie de dire, en fonction de ce que tu souhaites encore nous dire, mais sachant que Nicole et Pascal vont certainement t'empêcher de parler pour que tu parles encore d'autre chose. Alors, à toi de faire, André.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que je fasse un point sur deux choses. Tout d'abord, il y a une réforme qui a été adoptée de la loi du 27 juin 90 sur la contrainte psychiatrique. C'est la loi du 5 juillet 2011. Relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Cette loi introduit deux nouveautés. Les programmes de soins sans consentement, donc la possibilité de traiter sans consentement, y compris à domicile, les malades, les patients. La possibilité de traiter sans consentement, y compris à domicile, y compris par des visites à domicile, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et tout ce qui est soins sans consentement et programmes de soins, hospitalisation, temps partiel, etc., échappe au contrôle judiciaire. Et l'autre volet qu'on a obtenu, donc par le Conseil constitutionnel, pour suivre les décisions du Conseil constitutionnel, c'est que tout ce qui est hospitalisation sous contrainte à temps complet supérieur à 12 jours, qui atteint 15 jours, passe au contrôle d'un juge de la liberté de la détention, en audience obligatoire, avec trois possibilités, soit que le patient soit transféré au palais de justice, soit que le juge de la liberté de la détention et son greffier tiennent audience dans une salle séparée et distincte de l'hôpital psychiatrique ou de la clinique. Ça a été le cas au Vinatier. Le Vinatier, près de Lyon, a mis sur place une salle d'audience, paraît-il très bien, canon, etc. Il y a eu un décret à ce sujet. Soit troisième solution, issue de la loi LOPSI 2 et des dernières nouveautés, des nouvelles technologies, mais inapplicables en matière psychiatrique, mais qui commence à être appliquée, à savoir la visioconférence. Le patient est statué en état de non-transportabilité, il ne s'oppose pas à une visioconférence, et l'audience a lieu par le truchement d'une caméra et d'un système audiovisu entre le palais de justice et la salle où le patient est en visioconférence, assister son avocat. Et là, l'avocat est commis d'office. Il y a une autre possibilité enfin, qui est plus restreinte, c'est que s'il y a une inaptitude médicale à l'audience qui soit déclarée, auquel cas il n'y a pas d'audience, mais il n'y a pas d'audience avec le patient, mais il y a un avocat qui est commis d'office qui va donc examiner le dossier et en discuter avec le juge. Et c'est le juge qui prend la décision d'autoriser ou pas le maintien au-delà de 15 jours en hospitalisation temps complet du patient. Le juge finalement autorise, ne fait qu'autoriser, ou s'il n'autorise pas, il donne main levée. Il donne main levée de la mesure. Et c'est également la même chose pour le contrôle au bout de 6 mois. Quand les personnes sont enfermées pour une durée supérieure à 6 mois, au-delà du délai de quinzaine, puis 6 mois après, il y a un contrôle obligatoire du juge de liberté de la détention. Alors ce contrôle quinzaine, puis après 6 mois, c'est beaucoup trop léger. D'abord, nous, on aurait préféré un contrôle après l'espèce de garde à vue sanitaire de 72 heures, de 3 jours, dont j'ai reparlé. Donc, au troisième jour, au quatrième jour, un contrôle judiciaire nous aurait paru pertinent. Et un contrôle judiciaire à chaque décision de maintien. Donc, mensuel, 3 mois, 6 mois, etc. Tandis que là, c'est 15 jours, puis 6 mois, puis de nouveau 6 mois. Ça fait quand même un peu léger. Et en plus, dès lors où on fait sortir la personne, ne serait-ce que 24 heures, où on la met en hospitalisation de nuit, autrement dit, elle est en journée chez elle, elle va qu'à ses occupations sous traitement, sous contrainte, bien sûr, puis elle rentre à 18 heures le soir, elle dîne et elle dort à l'hôpital et elle repart le matin, le contrôle judiciaire ne s'applique plus. Et cela, ce sont des modalités que les services techniques du ministère de la Santé ont mis sur pied l'hiver 2010, de sorte à contourner la décision du Conseil constitutionnel et à rendre à peu près ou à moitié inopérant le contrôle judiciaire imposé. Mais cela étant, nous avons obtenu, et ça je n'en suis pas mécontent, c'est moi qui l'ai obtenu en se mettant d'accord et avec maître Raphaël Maillet, un avocat quadragénaire avec lequel on bosse depuis une dizaine d'années, qui est un excellent avocat, qui est un juriste pur et dur, hein. Il est pas, à la base il n'était pas militant, c'est quelqu'un d'engagé au plan paroissial. Donc, c'est dire qu'il y a une interconnexion là-dessus.
Oui, bah oui, c'est
fantastique. Hein.
Pas loin du grand écart.
Oui, mais enfin, non, mais c'est comme ça. Il y a des catholiques sociaux, c'est une réalité. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui a considéré dès 2001-2002 que le fait que les internés psychiatriques n'aient pas d'avocat spécialisé, ça n'allait pas du tout. Et qu'il fallait remplir cette carence, et que lui disait en tant que jeune avocat, il avait la trentaine à l'époque, moi j'entends développer un secteur d'activité nouveau, ce secteur d'activité qui me paraît rentable, ça peut être rentabilisé par les dommages et intérêts, allons-y, je suis d'accord, j'ouvre mon cabinet, je prends vos affaires. Donc c'est parfait, on y a été. Donc, alors j'ai pu obtenir des sénateurs socialistes, des sénateurs d'opposition, puis des députés, dans une conférence de presse au Sénat, des organisations opposantes au projet de réforme gouvernementale, où j'ai demandé à prendre la parole. J'avais un texte prêt. J'ai obtenu, en accord avec Raphaël Maillet, qui était sur cette position, et avec Ghislaine Rivet de la Ligue des droits de l'homme, qui était d'accord avec cette position et qui m'en avait convaincu, parce que moi, là-bas, j'étais pas convaincu de ça. J'ai obtenu que les parlementaires de l'opposition socialiste, à l'issue des débats le 16 juin à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis plus précisément de la troisième lecture sur ce texte le 22 juin, ne saisissent pas le Conseil constitutionnel par voie parlementaire. Sur le nouveau texte du 5 juillet, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi par voie parlementaire. Donc la voie nous est ouverte dans nos procès, dans les dossiers, dans nos multiples dossiers, pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc la question de savoir si les programmes de soins et la contrainte aux soins ambulatoires, l'hospitalisation temps partiel, va continuer d'échapper longtemps au contrôle judiciaire, elle n'est pas fermée. N'est pas fermée. Pour l'instant, nous comptons à la fin de ce mois, au début du mois prochain, déposer une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de procès qu'on a démarré, que le CRP a démarré contre les décrets d'application de cette loi, dans laquelle on pose entre autres questions de constitutionnalité au Conseil d'État en tant que juridiction filtre pour que ça puisse aller au Conseil constitutionnel, la question de la constitutionnalité du fait qu'on puisse contraindre aux soins des personnes, les mettre en hospitalisation temps partiel et qu'il n'y ait pas de contrôle judiciaire. Si jamais on est suivi par le Conseil d'État puis par le Conseil constitutionnel, il y aura de nouveau une réforme et il y aura un contrôle judiciaire des modalités de soins sans consentement. Bon, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a donc l'adoption de ce texte et de cette espèce de dualité où il y a d'un côté un très fort durcissement de la répression psychiatrique médicamenteuse, il y a un très fort durcissement, et de l'autre, des ouvertures de contestation possibles devant les juges.
Voilà. Est-ce que vous deux, vous avez vos demandes de précision?
Non, mais puisqu'on a abordé la question tout à l'heure et que c'est un thème récurrent à Arlémur, sur justement toutes les nouvelles unités, UHSA, et puis il y en a une autre, d'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom. Non, oui, les UMD, mais avec les UHSA, il y a eu d'autres...
celle de Fresnes.
Ouais, d'autres structures qui étaient proches de qui étaient, c'était pas les UHSA mais quelque chose comme ça, enfin peu importe. En tous les cas, sur les UHSA, est-ce que là-dessus tu as
oui,
des
j'ai
commentaires?
Eu des échos. Oui. Bon, alors nous nous on part d'un constat qui a été fait, que j'ai là sous les yeux, par le syndicat des psychiatres des hôpitaux, qui est un syndicat majoritaire chez les psychiatres, les chefs de service en psychiatrie. C'est un très bon commentaire qui a été dirigé par le président et la vice-présidente de ce syndicat, Jean-Claude Pénochet et Isabelle Montet, où dans une discussion qu'on avait eue avec eux, que j'avais eue avec eux, hein, et qu'on avait eue dans le cadre des collectifs, enfin eux sont hors contestation parce qu'ils sont quand même très institutionnels, mais enfin ils ont fait partie des manifestations contre le projet de loi gouvernemental organisé par le collectif des 39, mais ils sont en dehors des collectifs contestataires. Eux disent que la perspective, c'est qu'on se retrouve avec des hôpitaux psychiatriques carcéraux, ou qui ne traitent que de la contrainte, que de l'enfermement. Tout ce qui est service libre, etc., est relégué à l'extérieur en cours de privatisation, où donc il y a, le fait est, c'est la situation actuelle, il y a un rapprochement entre la situation des hôpitaux psychiatriques et de nouveau la situation des prisons. Alors, quant aux UHSA, j'ai entendu parler, à travers les récentes audiences au JLD de Lyon, à travers la salle d'audience consacrée à l'hôpital du Vinatier, de l'UHSA du Vinatier. Et des détenus en cours de demande de libération ou de contrôle au juge de la liberté de la détention, passant en même temps que les internés classiques au Vinatier, dans les contrôles obligatoires ou facultatifs au juge de la liberté de la détention. Alors, ce qui est en train de se passer, finalement, c'est que vous avez une psychiatrisation des détenus et une espèce de carcéralisation assez nette pour l'enfermement psychiatrique. Avec, dans le troisième pôle de cette dualité, un peu en trois pôles, le pôle et la masse qui va s'élargir de plus en plus, des contraints aux soins. De ceux qui n'auront pas cette dignité telle qu'on reconnaît aux délinquants, qui est un ennemi patenté de l'ordre social, donc on l'enferme, qui n'auront pas la dangerosité de reconnue au point qu'on doit les enfermer, ou le manque d'appui, le manque d'étés familiaux qui fait qu'on doit tenir le malade enfermé, on les met dehors, on les contraint aux soins, ils n'ont plus de droits. Donc en gros, c'est cette situation. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez le développement des UHSA d'une part, et le développement, la multiplication par deux des lits en unités pour malades difficiles, puisqu'on doit passer progressivement de 4 unités pour malades difficiles. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y avait 4 unités pour malades difficiles en France. On est maintenant à 5, on doit passer à 9. Donc, il y a de prévu, d'ici 2013, une multiplication par 2 du nombre de lits et de places en unités pour malades difficiles, avec en même temps la mise sur pied d'une dizaine du HSA. Donc tout ça, c'est pas si simple. C'est franchement pas si simple. Il y a effectivement un durcissement des politiques d'enfermement tous axes. Tout ça, mais vraiment tous axes.
Alors, comme on terminera en donnant les coordonnées que nous avons d'ailleurs sous les yeux, André, y a-t-il encore quelque chose que tu voudrais dire de façon à avoir été sinon exhaustif, du moins pas incomplet ?
Oui, c'est difficile dans la matière. Je tiens, j'ai été contacté au mois de mai par des gens de Sans Remède qui ont formé une espèce de collectif pour l'instant informel contre la psychiatrie et ses aberrations.
Il y a Jean-Luc Guilhem dans ce...
Oui, il y a Jean-Luc Guilhem.
Un ancien de Paris 8 aussi.
Oui.
Mais oui.
Oui, oui.
Il fait partie de l'équipe de l'envolée sur Fréquence Paris Pluriel.
Et donc j'ai été contacté, j'ai eu leur journal où ils reprennent certains thèmes et une certaine prose des anciens journaux du groupe Information Asile, les psychiatrisés en lutte des années 70.
De célèbre mémoire. Quel beau journal.
Oui, c'était un beau journal. Les psychiatrisés en lutte était un beau journal. Je pense que les gens de Sans Remède qui sont liés à la mouvance libertaire ont raison dans leur dénonciation. Ils ont raison d'organiser des gens et de s'organiser par rapport au risque psychiatrique, parce qu'il est vrai qu'il y a un risque psychiatrique pour la population en général et pour ceux qui sont plus ou moins marginaux. Et moi, je les encourage à s'organiser, à se former en organisation déclarée.
Ah oui.
Oui. Donc ça, je les encourage à se former en organisation déclarée parce que je pense qu'ils peuvent amener des choses. Mmh. Je pense que leur projet est intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Bien, alors, est-ce que tu es d'accord pour nous donner les coordonnées du CRPA ?
Alors, quand vous tapez sur un moteur de recherche sur Internet CRPA, vous avez le centre sur le patinage artistique.
C'est pas tout à fait pareil.
Le centre de recouvrement des inveillés, etc. Mais à un moment donné, vous tombez sur un CRPA psychiatrie et là, vous êtes sûr, vous y êtes. Oui. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche CRPA et vous serez aiguillé. Alors, de toutes les façons, c'est au 14 rue des Tapisseries, dans le 17e, à Paris. Et le téléphone standard, c'est un téléphone répondeur, est le 01 47 63 05 62.
Et on le redonne, 01 47 63 05 62. Est-ce que on indique le courriel ou le site?
Oui, le site, oui, je pense. Après les sigles internationaux HTTP, crpa.asso.fr.
Très bien.
Pour le reste, c'est indiqué sur les moteurs de recherche. Hein, c'est très bien. Oui. Il est très bien référencé ce site.
Bah écoute, André, j'étais très content de te revoir. Nous avons évidemment dépassé l'horaire que nous avions prévu, mais pour ma part, je tiens à dire que je ne le regrette pas, et l'équipe apparemment non plus. Donc, je te dis certainement à une prochaine occasion, et un grand merci.
J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous.
Merci André,